En 1992, la Convention sur la diversité biologique a posé les bases pour un commerce éthique et durable des produits issus des espèces natives permettant d'éviter la biopiraterie et le pillage des ressources naturelles et des savoirs ancestraux. Qu'en est-il ? En 2012, consultant, formateur et chercheur Pierre Johnson publie « Biopiraterie, quelles alternatives au pillage des ressources naturelles et des savoirs ancestraux » aux éditions Charles-Léopold Meyer, une interview réalisée par Pascal Marcaggi.
La biopiraterie, c'est l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels associés à la biodiversité. Donc sous la forme de brevets ou de marques qui reprennent les connaissances traditionnelles ou l'image développée par ces peuples.
En quoi cela nous concerne-t-il, nous qui vous écoutons à l'instant ?
Parce qu'il y a beaucoup de produits pharmaceutiques, cosmétiques, voire alimentaires qui trouvent leur usage au départ chez ces peuples-là. Parce qu'ils habitent dans des zones de grande biodiversité, nos entreprises prospectent aussi dans ces régions-là.
Y a-t-il une base juridique qui protège de la biopiraterie ?
Il y a une convention internationale signée par 168 États, c'est la Convention sur la diversité biologique qui oblige à demander l'autorisation de ces peuples, à négocier un partage des avantages. Donc elle protège dans une certaine mesure contre la biopiraterie.
C'est vraiment efficace, c'est appliqué ?
Pas à 100%, puisque la Convention sur la diversité biologique et le protocole de Nagoya de 2010 ne mentionnent pas la question des brevets, qui est vraiment une forme de verrouillage de la connaissance. Mais c'est, disons, vraiment un levier important juridique. Mais ça implique aussi que les États aient ratifié cette convention et mis en place des choses, ce qui n'est pas le cas de tous les États, notamment en Afrique.
Quand vous parlez de brevets, vous voulez dire qu'en fait, on s'approprie le vivant ?
On s'approprie soit le vivant, soit le savoir sur le vivant, soit les deux.
Est-ce qu'on a une estimation de ce que ça représente en termes de biodiversité à travers le monde ? Et quels sont les secteurs qui sont les plus biopirates ?
Potentiellement, il y a des usages dans toutes les régions du monde, plus dans les régions tropicales. Les secteurs les plus concernés, c'est la cosmétique, les produits alimentaires nouveaux. La pharmacie utilise un peu moins des plantes traditionnelles aujourd'hui, un peu plus des molécules synthétiques.
Pouvez-vous donner des exemples à l'auditeur de produits qu'il connaît d'ailleurs ?
En fait, souvent, ce sont des entreprises d'ingrédients qui brevettent, donc c'est des intermédiaires avec les marques. Donc, par exemple, l'entreprise GreenTech avait breveté une plante du Pérou en 2006. Grâce à finalement la lutte d'un collectif contre la biopiraterie et de la commission péruvienne contre la biopiraterie, ce brevet a été révoqué en 2009. Il y a eu beaucoup d'autres brevets déposés par des entreprises d'ingrédients. Ils ne sont pas tous été dénoncés.
Il y a un exemple qui est quand même relativement bien connu aujourd'hui en Europe, c'est l'huile d'argan.
L'huile d'argan, c'est un problème de manque de reconnaissance de la valeur qu'a la connaissance traditionnelle des femmes marocaines sur l'usage de cette huile et sur la transformation, puisqu'effectivement le Maroc n'ayant pas encore traduit cette convention dans sa législation, les entreprises développent ces filières depuis une dizaine d'années et garde l'essentiel du bénéfice en reversant très très peu aux populations locales. Et l'État marocain est peut-être en train de réagir, mais ça prend du temps par rapport au développement de cette filière qui est déjà très avancée.
Alors la perspective de Rio plus 20, est-ce qu'il y a la biopiraterie qui est sur la table là,
hein ? Ça va être un des thèmes du sommet des peuples, hein, du sommet de la société civile, puisqu'on va avoir des représentants des peuples indigènes. Donc l'idée, c'est de faire un atelier sur la biopiraterie et ses alternatives avec les représentants de ces peuples pour voir essayer quelle est leur expérience, leur parler des outils juridiques disponibles, de ce que font les ONG pour prévenir la biopiraterie en lien avec eux. Donc il y aura cet atelier voilà, avec des peuples d'Amérique latine beaucoup, avec Vandana Shiva, qui est une indienne qui lutte contre la biopiraterie et le brevetage du vivant en Inde, et avec peut-être des Sud-Africains.
Que faudrait-il idéalement ? Ne pas breveter la nature et des labels pour certifier que les savoirs indigènes n'ont pas été confisqués ?
Alors oui, le brevet sur le vivant et sur le savoir traditionnel, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, qui ne peut pas être vertueux, puisqu'on a des choses contradictoires. Disons que ces peuples-là sont contre l'idée de propriété intellectuelle privée. Donc déposer un brevet sur ces savoirs, même s'il y a un partage des royalties avec ces peuples, c'est quelque chose de totalement contradictoire. Les labels aujourd'hui sont insuffisants parce que c'est un sujet assez complexe. Je doute qu'on arrive à un label formel qui puisse garantir tout ça. Et je crois plus finalement à un système participatif. Ces peuples sont partie prenante et où on garantit des choses sans que ce soit un label payant, contrôlé par un organisme privé, etc.
C'est pas de l'angélisme ça ?
C'est quelque chose qui se développe. Alors à toute petite échelle, c'est quelque chose que certaines entreprises essayent de faire à toute petite échelle. Donc ça se développe. Après, je pense que le consommateur aussi va être de plus en plus conscient de ses enjeux.
Biopiraterie, quelles alternatives au pillage des ressources naturelles et des savoirs ancestraux ? Un ouvrage signé Pierre Johnson aux éditions Charles-Léopold Meyer.